Je ne sais plus si on avait vu les objections de l'article 2. Non, je crois pas. C'est ce qui me semblait. Alors nous allons voir tout de suite les objections, ce qui nous permettra de revenir sur l'article 2 si vous avez des questions. Cet article 2, n'est-ce pas, c'est la grâce est-elle une qualité dans l'âme? Donc c'est savoir si, de fait, nous devons considérer la grâce, après avoir vu les trois manières de regarder la grâce dans l'article précédent, on regarde si la grâce est quelque chose de créé dans l'âme. Et il faut saisir le raisonnement de Saint Thomas. Vous comprenez qu'au point de vue de la foi, pour nous, après le concile de Trente, nous devons dire que la grâce est quelque chose de créé dans l'âme. Donc on peut le dire directement au point de vue de la foi. Il faut saisir la raison de convenance. Pourquoi il y a ce quelque chose de créé dans l'âme. Et saint Thomas le ramène à l'économie générale de Dieu sur l'homme. Mais c'est vraiment à partir de l'homme que saint Thomas regarde ce point de vue-là. C'est que l'homme a besoin d'atteindre son salut, sa béatitude. Il y a le traité de la béatitude qui est sous-jacent. Hein. Béatitude surnaturelle, béatitude naturelle. L'homme doit est un être capable d'acquérir sa béatitude. Comment acquiert-il sa béatitude? Il y a un double secours. Il y a un secours d'ordre de l'exercice et il y a des qualités que Dieu donne pour être capable d'opérer. Et au fond, c'est cette grande vision qui présuppose toute une analyse. C'est l'analyse du vivant, vous voyez. Fondamentalement, c'est le de anima. C'est très très curieux. Fondamentalement, c'est le de anima. C'est que la vie implique deux aspects, l'exercice et la détermination. Et qu'il y a toujours les deux. Alors vous voyez une philosophie qui n'impliquerait pas cette distinction de la cause efficiente et de la cause spécifique, de la cause formelle. Il faut y penser de temps en temps. Hein. Alors à ce moment-là, on ne peut plus. Mais c'est ça qui nous fait comprendre le bienfait d'une distinction. D'analyse philosophique. Mais mettez-vous au plan psychologique, hein, tout simplement, parce que nous sommes dans le psychologisme le plus absolu. Alors mettez-vous au plan psychologique. Au plan psychologique, qu'est-ce qu'on fait comme analyse? On fait uniquement l'analyse du côté de l'exercice, du côté du comportement. Alors on voit ce qui est nécessaire pour que telle chose apparaisse. Appliquez ça au traité que donne saint Thomas ici. Vous ne pouvez plus comprendre. Au plan psychologique, vous êtes au niveau du conditionnement. Or, au plan de la grâce, on est du côté de la finalité. Tout le temps du côté de la finalité. Je ne peux rien comprendre à l'exigence de la grâce du côté du comportement. Du côté du comportement, mais le comportement humain est le même. Il n'y a rien de changé, qu'il soit surnaturel ou pas surnaturel. En fait, c'est ce qu'on dit habituellement. Regardez l'hommerie qui existe, même dans les vies religieuses les plus éminentes. Il reste toujours quelque chose de l'homme. Et nous pouvons achoper toujours par rapport à ce conditionnement. Ce conditionnement, il est toujours présent. Il est visible. L'invisible, c'est la finalité. Et le visible et l'invisible. Hein. C'est vraiment ça que nous devons comprendre. La finalité, elle est invisible. Il n'y a pas de perfection du côté du conditionnement. Si vous cherchez la perfection du côté du perfectionnement, c'est ce qu'on appelle le perfectionnisme en psychologie. Et le perfectionnisme en psychologie fait qu'on se casse la tête. Et non seulement la tête, mais le cœur. Et qu'on ne peut plus. Ça devient l'asphyxie. Le perfectionnisme. Et ça joue beaucoup plus qu'on ne pense. Hein, parce que on a été bien éduqué. On a été éduqué du côté du perfectionnisme. Il y en a beaucoup de peine à accepter d'être un pauvre. Et tout est là, au fond. C'est d'accepter d'être un pauvre type. Alors, on accepte encore d'être un pauvre type si ça ne se voit pas à l'extérieur. Mais quand ça se voit à l'extérieur, qu'on est un mendiant à l'extérieur, que le vase est fêlé, c'est pas commode du tout d'accepter. Or, c'est ça l'éducation de Dieu. C'est bienheureux les pauvres, hein, c'est-à-dire ceux qui ont accepté pleinement et totalement d'être des mendiants, qui sont mendiants du côté de l'exercice et du côté de la détermination et de la finalité. Je crois que c'est très important, vous voyez cet article 2. Ça n'a l'air de rien, à première vue, on lit ça. On boit ça comme du petit lait. Mais derrière, hein, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, voyons tout de suite l'objection première. Aucune qualité n'agit sur son sujet. Car l'action de la qualité n'existe pas sans l'action du sujet. Et alors, il faudrait que le sujet exerce son action sur lui-même. Or, la grâce agit sur l'âme, puisqu'elle la justifie. Donc, la grâce n'est pas une qualité. Ça, c'est très curieux comme raisonnement. Alors, réponse. En tant que la grâce est une qualité, dicendum, gratia secundum quod est qualitas. Secundum quod est qualitas. Donc, c'est un aspect de la grâce. Si l'on dit qu'elle agit sur l'âme, ce n'est pas par manière de cause efficiente, mais de cause formelle. C'est ainsi que la blancheur fait l'objet blanc et que la justice fait l'homme juste. Donc l'âme, la grâce, fait l'homme gratifié. L'analogie. Vous voyez, la grâce est du côté de l'abstrait. Laisser participer. Et donc, analogue à la blancheur. Je suis blanc par la blancheur. Je suis déiforme par la grâce. C'est la grâce qui me rend, qui me donne cette noblesse d'enfant de Dieu. Alors, deuxième objection. La substance est plus noble que la qualité. Or, la grâce est plus noble que la nature de l'âme. Nous pouvons en effet, par la grâce, une foule de choses que la nature est insuffisante à produire, comme nous l'avons dit. Donc, la grâce n'est pas une qualité. Alors là, ça c'est très très joli, c'est la projection du monde entitatif sur le domaine de la grâce. Hein. Alors là, c'est très très important, comme objection. Et alors il y aurait toute la perspective des orthodoxes qui serait là. Parce que ça c'est la perspective qu'il faut essayer de comprendre. Ce qui est au niveau métaphysique, où il y a qualité. Oui, l'ordre de la grâce. Je suis là devant participation formelle à la nature de Dieu. Je suis dans un autre ordre, hein, dans l'ordre surnaturel. Alors vous comprenez, la tentation, la grâce est une qualité. Donc si elle est une qualité, elle est en référence avec l'ousia. Alors vous allez mettre le divin en référence avec l'ousia. Avec le sujet. Le sujet qui est Pierre. Vous allez mettre l'ordre surnaturel en référence. Mais c'est effrayant de faire ça. C'est du naturalisme le plus effrayant qui soit. Voilà l'opposition des orthodoxes. C'est ça qui est sous-jacent à leur opposition. Vous mettez le surnaturel, donc vous tombez dans l'humanisme. Et cet humanisme, c'est effrayant, c'est ça qui a tué l'Église romaine. L'Église romaine est tombée dans l'humanisme. Et on le voit bien. Et regardez aujourd'hui. Elle est tombée, donc l'humanisme, la sécularisation et tout le reste. La suite. C'est une objection qui est, elle est très joliment posée ici dans Saint-Thomas. Elle est posée métaphysiquement, ils ne poseront jamais comme ça. Mais au fond, c'est comme ça qu'ils la posent. Leur opposition violente à l'égard de saint Augustin. Saint Augustin est dans le psychologisme. Nous, nous sommes dans le métaphysique. Nous sommes dans l'ontologie. Oui. Parce que saint Augustin est dans le psychologisme, il regarde le point de vue psychologique, et c'est comme ça qu'il regarde le mystère de la très sainte Trinité. Il projette sur la très sainte Trinité les opérations humaines. Nous, nous voulons au contraire regarder dans une perspective qui soit tout à fait de ontologique. Alors, réponse de saint Thomas. Ordinairement, les orthodoxes n'ont pas lu saint Thomas, il ne faut pas oublier. Ils ont lu les succédanées de Suarez. Alors, je comprends qu'on s'irrite devant les succédanées de Suarez, bon, parce que c'est la petite sauce. Alors, ça ne va plus, n'est-ce pas ? Troisième jus. Là, vous venez et vous dites c'est du café. Non, c'est plus du café, c'est du jus noir, tout simplement. Mais c'est plus du café. Alors c'est comme ça, saint Thomas par rapport à la scolastique décadente, qu'on donne, n'est-ce pas, ordinairement, quand vous, chaque fois que je peux discuter avec un orthodoxe, je lui demande comment il regarde saint Thomas. Et là on voit que c'est Suarez. C'est pas du tout saint Thomas. L'analogie pour eux est comprise comme une comparaison. Et non pas du tout allo, allo. Ça vous l'aurez retenu. Toute substance substance constitue ou bien la nature même de l'objet dont elle est la substance, ou au moins une partie de cette nature. Alors, tiens-nous, substantia omnis. Alors, c'est ça qu'il faut bien saisir. Hein, vous avez le mot substantia chez saint Thomas. Alors, toute substance, omnis substantia, toute substance, où est la nature de la réalité dont elle est la substance. Alors, voyez que c'est curieux, la traduction. Oui, comme c'est difficile de comprendre la traduction. Toute substance, où est la nature de la réalité dont elle est substance. Ça, on comprend tout de suite. Natura rei, cuius est substantia. Alors, vous voyez la distinction que fait saint Thomas entre natura rei et substantia. C'est pas si commode que ça, bien saisir. Hein. La natura rei, c'est la réalité physique telle qu'elle est. Ou la réalité tout simplement existentielle. Et substantia, c'est ce qui est à la racine de cette nature. Je crois qu'on peut dire ça. Vous voyez, les temps et l'être. En gros, hein, les temps et l'être. La natura rei, dont elle est substantia. Alors ne traduisez pas rei, objet. Ça va plus. Ou elle est pars naturae. Secundum quem modum. Donc, selon lequel mode, la matière ou la forme est dit substance. C'est, matière et forme sont des parties essentielles de la réalité. Matière et forme peuvent être dit substance. Alors, je continue, n'est-ce pas, à bien saisir. Dès lors étant donné que la grâce est au-dessus de la nature humaine, et parce que la grâce est supra naturam humanam, non potest esse, quod sit substantia, ut aut forma substantialis. Dès lors, étant donné que la grâce est au-dessus de la nature humaine, il n'est pas possible qu'elle en soit la substance ou la forme substantielle, mais elle est une forme accidentelle de l'âme. Au grand scandale, oui. Forma accidentalis. Elle est une forme accidentelle de l'âme. Alors, comprenons bien le raisonnement. Puisque la grâce est supra. Elle est supra. Donc, si la grâce est supra, elle respecte parfaitement le point de vue de la nature. La grâce ne détruit pas la nature. Si la grâce ne détruit pas la nature, et que la nature, c'est Pierre, c'est l'homme. Donc elle est supra. Si elle vient s'ajouter, elle est nécessairement forma accidentalis. Il ne peut pas être autrement. Il ne peut pas y avoir une substance sur une substance. Puisque la substance, par définition, est quelque chose de fondamental. Donc si la grâce est supra, elle présuppose autre chose. Elle présuppose quelque chose qui est fondamental. Elle suppose donc quelque chose qui est premier. Et ce quelque chose qui est premier, c'est l'ousia. C'est l'ousia de la natura rei. Vous voyez la précision que donne saint Thomas. Hein, si la grâce est supra, donc si la grâce vient s'ajouter, si la grâce est une deuxième naissance, ce que Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Bien, c'est évident, le baptême vient après la naissance. Une fois, j'ai rencontré un gynécologue, grand maître de la franc-maçonnerie, qui m'a dit, j'ai eu la première manche, vous avez eu la seconde, parce que j'avais baptisé l'enfant. Alors, c'était très joli, il disait, vous devez savoir tout. C'était le franc-maçon qui reconnaissait, j'ai eu moi, au point de vue de la nature, hein. Vous, la grâce. Supra, j'ai dit oui, moi c'est du côté de la grâce, vous c'est du côté de la nature. Et j'ai dit oui, c'est vrai, reconnaissons ça. Supra, la grâce présuppose la nature. On est, alors si je pousse énormément, c'est très amusant, ces dialogues comme ça quand on est devant des gens intelligents qui avaient très bien compris. Et ils ont très bien compris, supra, ça vient après, c'est vrai, c'est la seconde naissance, c'est pas la première. Donc ça vient supra. Si ça vient chez toi, ça ne peut pas être substantiel. C'est impossible. Métaphysiquement, c'est impossible. Si je prends un langage métaphysique, donc ça ne peut être qu'une forme accidentalis. Mais cette forme accidentelle est divine. Donc si elle est divine, elle l'emporte sur la nature, sur la substance. Elle l'emporte parce que la substance est limitée, elle est créée. Vous voyez, c'est très joli comme dialogue. Hein, c'est très très joli comme essayer de comprendre ça. Alors continuons. Donc, dès lors, étant donné que la grâce est au-dessus de la nature supra, il n'est pas possible qu'elle soit la substance ou la forme substantielle, mais elle est une forme accidentelle de l'âme. En effet, ce qui est substantiellement en Dieu se trouve être accidentellement dans l'âme qui participe à la bonté divine, comme on le voit avec évidence quand, par exemple, il s'agit de la science. Par le fait, donc, que l'âme ne participe qu'imparfaitement à la bonté de Dieu, cette participation même de la bonté divine, qui est la grâce, a dans l'âme une existence moins parfaite que celle de l'âme qui subsiste en elle-même. La grâce, alors voyez la différence hein, entre l'exister et la qualité de la noblesse de cette qualité. C'est très très joli ça. Il faut souligner ça 3-4 fois avant de le comprendre. Hein. Vite bien saisi. Et par le fait même que l'âme ne participe qu'imparfaitement à la bonté de Dieu, cette participation même de la bonté divine, qui est la grâce, a dans l'âme une existence moins parfaite que celle de l'âme qui subsiste en elle-même. Ce qui n'empêche pas la grâce d'être plus noble que la nature de l'homme, que la nature humaine de l'âme. Elle t'amène nobilior, toujours les qualités, c'est la noblesse, nobilior. Ce qui n'empêche pas la grâce d'être plus noble que la nature de l'âme en tant qu'elle est l'expression ou la participation de la bonté de Dieu. In quantum et expression, c'est très rare que saint Thomas emploie cette expression, n'est-ce pas ? Mais c'est très très joli de la voir ici. L'âme et la grâce est l'expression ou la participation, donc participation égale expression. Très très joli. La participation, c'est l'expression de la bonté divine. Non autem quantum ad modum essendi. Donc, distinction entre le point de vue de la participation de l'expression de la bonté divine et le point de vue de ad modum essendi. Du côté du mot d'ad modum essendi. Côté expression, participation, elle regarde la bonté divine. Vous voyez donc que saint Thomas nous donne ici une double lumière sur la grâce. Il y a deux lumières, deux analogies pour saisir ce que c'est que la grâce. Je saisis la grâce en fonction de la nature humaine qui est le sujet de la grâce. Je regarde ad modum essendi. La grâce a un statut d'existence qui est accidentel. Et la grâce, dans sa noblesse, regarde la bonté de Dieu, participation formelle à la nature de Dieu. C'est pour ça que regarder l'aspect ad modum essendi, c'est matériel. Et l'aspect formel, c'est la participation. Ce que dira Jean de Saint-Thomas, là il a parfaitement raison. Quand Jean de Saint-Thomas essaie de regarder ça, il nous dit, il faut bien comprendre que si je veux saisir ce qu'il y a de formel dans la grâce, c'est-à-dire ce qu'il y a de tout à fait propre à la grâce, si je veux saisir ce qui caractérise la grâce, je dois regarder quelle est participation formelle à la nature de Dieu. Donc je la regarde dans la lumière de la bonté divine. La grâce me met en communication directe avec la bonté de Dieu. Elle est en moi la bonté de Dieu. C'est ça la grâce. C'est l'irruption de la bonté de Dieu en moi. Donc c'est l'éclatement, l'expression de la bonté de Dieu en moi. Mais si je regarde la grâce du côté de sa manière d'exister, Almodo et Sandy, elle est accident. Elle est accident, et donc elle est relative à la nature humaine. Vous voyez, le double regard, c'est très très important, ça c'est capital, parce que c'est là où on saisit la manière dont on doit respecter ce qu'il y a de propre à la grâce, et en même temps la manière dont la grâce existe en moi. Elle existe comme une forme accidentelle. Mais cette forme accidentelle est divine, elle est une participation directe, formelle. Vous voyez, c'est pour ça que saint Thomas dit expression, pour montrer que c'est une participation formelle. Si c'était une participation lointaine, il ne dirait pas expression. Et ça, le mot expression à ce point de vue-là est très précieux. Parce qu'il montre que c'est une participation formelle à la nature de Dieu. Donc, expression. Elle exprime la bonté de Dieu en moi. Oui, là, vous voyez les deux aspects. La grâce est relative à la nature humaine. La grâce est relative à la bonté de Dieu. Elle est un métaxu entre les deux. Elle me divinise. Vous voyez, le daimon de Platon. Le daimon de Platon. Ce qui me divinise, c'est la grâce. Et donc la grâce, parce qu'elle me divinise, elle est en moi, et parce qu'elle me divinise, elle regarde Dieu. Donc elle est un métaxu intermédiaire. Et pour bien saisir cet intermédiaire, il y a ce double regard. Donc vous voyez, c'est très très important à bien saisir ça. D'où je comprends très bien l'objection. Mais vous dites que la grâce, en disant la grâce qu'elle est une qualité, vous la diminuez. Pas du tout. Je saisis ça, ça. Son statut, sa manière d'exister en moi. Elle ne peut exister que comme un accident. Mais je dis tout de suite, cet accident est quelque chose de tout à fait particulier, c'est un accident divin qui me met directement en liaison avec la bonté de Dieu. Les deux aspects, oui.
La puissance obédientielle, elle aura caractère.
Non, la puissance obédientielle est du côté substantiel. Puisque c'est la nature humaine en tant qu'elle est capable d'être divinisée. Oui, c'est ça la puissance obédientielle. C'est la nature humaine en tant qu'elle est capable d'être divinisée. Donc, c'est la nature humaine en tant qu'elle est ousia, capable de recevoir cet accident divin et d'être divinisée. Oui. Oui, tout à fait. C'est l'âme. C'est l'âme. Ce qu'il y a de formel dans la nature humaine, c'est l'âme. Oui. Or, c'est bien l'âme qui reçoit la grâce. Et l'âme, dans sa capacité substantielle, spirituelle, c'est évident que seul le spirituel peut être divinisé. Mais c'est l'âme, substance. Oui. La grâce est dans la substance de l'âme. Elle est reçue dans la substance de l'âme. Elle n'est pas reçue au sens tout à fait précis dans les facultés. Ça, c'est les vertus théologales. Oui. Donc, c'est l'âme en tant qu'elle est capable de recevoir cet accident divin qui la divinise. Et la divinisation se fait au niveau de la substance. Oui. C'est pour ça qu'il met ousia, substance de la nature, naturari. C'est subtil, mais c'est très précis. Oui. Non, elle est accidentelle en nous. En Dieu, elle n'est pas accidentelle puisque c'est Dieu. Vous voyez ? C'est la différence entre la créature. La créature est une participation de l'essai de Dieu. Mais on ne dira jamais que la créature est une expression de l'essai divin. Vous voyez ? La créature comme telle est une participation de l'être de Dieu. Mais ce n'est pas une expression. Jamais saint Thomas dira ça à propos de la créature. Tandis qu'il le dit à propos de la grâce. C'est pour ça que la scolastique dira participation formelle à la nature de Dieu. Oui.
C'est pour ça qu'ensuite, saint Thomas dira que la grâce participe à la nature de Dieu.
Oui, oui.
Jamais auparavant.
Oui, à la bonté de Dieu.
Alors maintenant, on dit à la bonté de Dieu, mais après, oui. Il ira plus loin et dira.
Ça reviendra au même.
Oui, mais ça précise mieux l'expression.
Ça précise que c'est une une partition formelle. Et vous voyez, quand il dit expressio ici, c'est impliqué dedans. Je crois que le mot expressio qui est ici, qu'il emploie très peu, hein. Mais c'est très intéressant, expression de la bonté divine. Oui. Alors la bonté divine, c'est la nature de Dieu. Dieu seul est bon. Oui, c'est ça. Vous voyez. Donc je crois que c'est déjà présent en disant expression. Oui. Parce que c'est rare qu'il dit, c'est une expression, oui. Dans le gouvernement divin, à propos de quoi? Oui, en parlant du gouvernement divin, donc à propos de la création, il parle de participation, mais jamais il dit expression. Et la scolastique va préciser, la créature participe à l'essai de Dieu. N'est-ce pas? L'essai participer. Bon, mais ce n'est pas une participation formelle. C'est là la différence avec la grâce. Hein, c'est, au fond, il y a deux participations, si vous voulez. La participation de l'essai. Et la participation à l'égard de la bonté divine. Alors, vous voyez, la participation de l'essai qui est l'essai participer, qui est la créature. C'est une participation qui n'est pas formelle, comme ils diront ensuite. Vous voyez, comme la scolastique précisera. Tandis que la participation à la bonté de Dieu, qui est la grâce, expression, participation formelle. C'est pour ça que les scolastiques se poseront la question, est-ce qu'il pourrait y avoir une grâce substantielle? Vous voyez, c'est tout à fait une question scolastique. Est-ce que serait possible une grâce substantielle? Eh bien, ils disent non. Métaphysiquement, ce serait contradictoire. Parce que Dieu ne peut pas communiquer formellement sa bonté, substantiellement, ce serait impossible. Ce serait un autre Dieu. Une grâce substantielle, ce serait Dieu. Donc ce ne serait plus une participation. C'est pour ça que la grâce ne peut être qu'accident à la nature. Dieu ne peut pas créer un être qui soit immédiatement grâce substantielle. Ce serait métaphysiquement impossible. La grâce ne peut être qu'une seconde nature. Une seconde nature. Vous voyez, peut-être qu'une seconde naissance. Quoi? Alors, elle est incréée, donc elle n'est pas participée. C'est Dieu. La grâce incréée, c'est Dieu. C'est pas. La question de scolastique, c'est une question de savoir une grâce qui serait participée, qui serait substantielle, et non pas forma accidentalis. C'est le forma accidentalis, vous voyez, qui scandalise nos chers orthodoxes. N'est-ce pas? C'est la forma accidentalis. Je comprends à première vue, c'est terrible, parce que c'est relatif. Alors vous mettez tout l'ordre surnaturel. Vous corrigez tout de suite, expression de la bonté. Et vous êtes obligé d'avoir ce double regard, la double analogie. Oui. Oui. C'est le double aspect. La métaphysique de la substance et de l'accident, et vous corrigez immédiatement en prenant l'expression. Immédiatement, vous corrigez. Vous dites l'accident modus essendi, voilà, ça c'est accidentel, c'est relatif. Et puis l'expression. Non, pas tout à fait. C'est plus, hein, c'est pour ça que je n'oserais pas dire. Voyez, je prends la métaphysique de l'acte de la puissance pour distinguer le point de vue, ce que nous avions vu, pour distinguer l'auxilium et la qualité. Mais ici, nous sommes en face d'essayer de préciser ce qu'est la qualité. Alors, c'est quelque chose de plus. C'est à l'intérieur même de cette forme accidentalis, je précise que sa qualité, sa noblesse, c'est une participation formelle à la bonté de Dieu. Oui. Donc je ne peux pas mettre uniquement du côté de l'acte. C'est la noblesse. Alors voyons, dernier aspect, dernière objection. Aucune qualité ne demeure quand elle cesse d'être dans un sujet. Or la grâce demeure, il n'est pas possible en effet qu'elle soit déterminée, qu'elle soit détruite, parce qu'elle ne pourrait être détruite qu'en retombant jusqu'au non-être. de même que c'est du non-être directement qu'elle a été créée, et c'est pourquoi l'apôtre appelle une créature nouvelle, donc la grâce n'est pas une qualité. Elle est une créature nouvelle, donc elle est quelque chose de substantiel, forcé. Selon la formule de Boès, l'être de l'accident, c'est d'être en quelque chose. Accidentis esse est in esse. C'est beaucoup plus fort en latin. C'est d'être in esse. Donc la grâce implique le in esse, c'est le mode d'être. Par suite, si on l'appelle un être, ce n'est pas qu'il est lui-même l'être, mais c'est que quelque chose est par lui. La fameuse chose toujours. Hein. L'accident, au sens rigoureux, n'est pas un être, mais il est de l'être. Un de magis digitur esse entis quad es. Ça, c'est très très intéressant, c'est dans la métaphysique où saint Thomas précise ça, que l'accident n'est pas premièrement être, ens. Ce qui est premièrement ens, c'est la substance. La substance seule est premièrement. Un de magis digitur esse entis quad ens. Ça, c'est très très intéressant, c'est dans la métaphysique où saint Thomas précise ça, que l'accident n'est pas premièrement être, ens. Ce qui est premièrement ens, c'est la substance. La substance seule est premièrement ens. Tandis que l'accident est entis. Elle est d'un être. Elle est relative à un être. Je ne comprends l'être de l'accident que par la substance. Je ne comprends pas l'être de l'accident par lui-même. C'est pour ça qu'il est entis. Il est d'un être. Oui, ça, c'est très précieux de bien saisir ça. Alors, évidemment, appliqué ici, vous voyez bien, ça va faire du grabuge. Par suite, si l'on appelle un être, si on l'appelle un être, ce n'est pas qu'il est lui-même l'être, mais c'est que quelque chose est par lui. Il est donc plus juste de dire qu'il est d'un être que de prétendre qu'il est vraiment un être, comme le remarque la métaphysique. Et parce que c'est seulement ce qui a l'être qui peut naître ou disparaître. Aucun accident à proprement parler ne commence à exister ni n'est détruit. Mais on dit qu'il commence ou qu'il cesse suivant que le sujet se trouve en acte avec ou sans cet accident. Et voilà comment on dit que la grâce est créée. C'est du fait que les hommes sont créés en grâce, c'est-à-dire constitués dans un être nouveau. Et cela de rien, c'est-à-dire sans qu'il y ait à l'origine de leur part aucun mérite préalable, comme l'enseigne l'Épître aux Éphésiens, créé dans le Christ Jésus pour que nous produisions des œuvres bonnes. Creati in Christo Jesu in operibus bonis. Vous voyez, au sens tout à fait. Et quand on parle d'une nouvelle naissance, vous voyez, on montre bien que je ne peux pas regarder la grâce uniquement du côté accident. Il y a quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que je peux parler d'une nouvelle naissance. Tandis que je ne peux pas dire ça à propos de l'habitus métaphysique que j'acquiers. Je suis né métaphysiquement au moment où j'ai l'habitus métaphysique. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire ça. Tandis que je peux dire qu'il y a une nouvelle naissance. Pourquoi ? Parce que la grâce qui est un accident, est aussi une participation formelle à la bonté de Dieu. Saint Thomas ne dit pas ça, mais il pourrait le dire. Bon, maintenant passons à l'article suivant. La grâce est-elle la même chose que la vertu ? Oui.
Est-ce que le fait que la grâce
dans le Christ. Dans le Christ, la grâce est un accident. Et elle est infinie. Elle est infinie. La ratio gratiée du Christ est infinie. La raison de grâce dans le Christ est infinie. Vous voyez ? C'est deux ordres différents. C'est ça qu'il faut saisir. C'est ça que nous avons beaucoup de peine, ça c'est évident. On a beaucoup de peine, cette gymnastique. Hein. C'est le petit gosse qui regarde l'horizon en regardant à travers ses alors tout est à l'envers. C'est exactement ça, tout est à l'envers. Vous voyez, c'est propre du mystère de la grâce. Il renverse tout. Ce qui était formel devient accidentel, ce qui était accidentel, pas ce qui était accidentel devient formel, mais c'est quelque chose comme ça. C'est que l'aspect formel, c'est la participation à la beauté de Dieu. L'aspect matériel, c'est par rapport à la substance. Oui.
Il est éclairant d'utiliser la distinction être et vie.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Parce que le point de vue de la vie, c'est le côté de la vie. Mais vous voyez, il n'emploie pas ici. On comprend très bien pourquoi il n'emploie pas. Parce qu'il regarde la grâce en tant qu'elle est ce qui qualifie l'âme. Vous voyez ? C'est évident que c'est par rapport à la grâce en tant qu'elle est source d'une vie nouvelle, qui est une vie divine, qui a son propre objet. Vous voyez ? Alors là, on le voit tout de suite. Ici, il veut regarder fondamentalement, ce qui permet de comprendre ça ensuite. Mais c'est évident que c'est du côté de la vie que ça s'explicite. Oui, c'est du côté de la vie que ça s'explicite parce que c'est du côté de la vie que je comprends que j'ai une vie nouvelle. Et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle naissance. Et par la nouvelle naissance, vous voyez, je regarde le point de vue de ce nouveau rythme de vie qui est en moi. Et ce nouveau rythme qui est en moi provient de la grâce. C'est sûr, et c'est en ce sens-là que si on ne regarde pas la question précédente, on ramène tout le traité de la grâce à la grâce habituelle.
Et saint Thomas, il a souligné ici, il a distingué quand même dans l'article 2,
même 2.
Il a dit, si on regarde la grâce actuelle, voilà, et puis ensuite il n'en parle plus du tout.
Non, plus du tout. Et ça, c'est normal. C'est normal au point de vue théologie scientifique. Que regarde la théologie scientifique, hein? C'est normal. La grâce, le point de vue de l'auxilium échappe. Et vous le retrouvez au contraire au point de vue théologie mystique. Oui. C'est pour ça que la pierre d'attente de la théologie mystique, c'est le lien entre l'auxilium et la grâce sanctifiante. Tandis que du côté de théologie scientifique, je n'étudie que la grâce sanctifiante. Parce que c'est la seule chose qui permet une théologie scientifique. Oui. Il n'y aurait qu'un auxilium, il n'y aurait pas de théologie scientifique de la grâce. Il y avait l'affirmation de la grâce et c'est tout.
Ce qui est gênant, c'est que saint Thomas prétend préciser le puits de la grâce.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Saint Thomas prétend préciser le puits de la grâce.
Mais non, parce que le quid de la grâce ne peut être pour nous que la grâce sanctifiante. Vous voyez, il y a la même R. Prenez l'analogie, si vous voulez. Entre le tiesti de l'être et le tiesti de la substance. Quand Aristote dit que dire, chercher le tiesti de l'être et chercher le tiesti de la substance, c'est la même interrogation. Gilson dit, il ramène l'être à la grâce, il ramène l'être à la substance. Quand on cherche qu'est-ce que c'est que la grâce et qu'on cherche le tiesti de la grâce en ne regardant que la grâce, on dira, saint Thomas ne regarde pas du tout. Le tiesti de la grâce ne peut se comprendre que dans la grâce sanctifiante. Ça, c'est sûr. Et c'est là où on voit très bien comment ça risque de tout matérialiser si on ramène cela et on identifie. Je ne sais pas si vous voyez bien la question, mais c'est très important par rapport aux orthodoxes. Je mets l'analogie pour que vous compreniez. C'est toujours ça qui est clair. Bon, Aristote dit que le tiesti de ce qui est du tuon, c'est le tiesti de la substance, de l'ousia. Saint Thomas cherche le tiesti autant qu'on peut, c'est-à-dire le komodo, de la grâce. Et il ramène ce tiesti de la grâce à la grâce sanctifiante, c'est-à-dire à la grâce habituelle. Puisqu'Aristote dit que le tiesti de ce qui est, c'est le Thiesti de Lousia. Gilson dira, Aristote ramène l'être à Lousia. Les orthodoxes disent, puisque saint Thomas cherche le Thiesti de la grâce et ramène le Thiesti de la grâce, il ramène la grâce à la grâce sanctifiante. C'est exactement la même erreur. C'est très intéressant de saisir ça, vous voyez, parce qu'au fond, c'est oublier ce que c'est qu'une formalisation scientifique. Quand je formalise scientifiquement, je ne cherche que le principe, la seule chose intelligible. Mais je n'oublie pas du tout le point de départ. Le point de départ, c'est ce qui est. Et en découvrant le principe, je sais très bien que Lousia n'égale pas, je ne peux pas dire Lousia égale Toan, mais non. L'ousia, la substance, c'est le principe du Toan. Et quand je vais ici, je ne dis pas du tout que la grâce sanctifiante égale la grâce. Pas du tout. C'est le principe qui est en nous. Oui. C'est pour ça qu'il y a une analogie. Et je crois que l'analogie fait comprendre les deux erreurs, si vous voulez. Alors vous mettez Gilson qui jette de... Autrement dit, si je suis gilsonien, au bout d'un certain temps, je dois être orthodoxe. Vous voyez, bon, Gilson, il doit se secouer dans le ciel. Mais il doit comprendre. Il doit comprendre que là, c'est exactement la même confusion. C'est curieux, ça. Et c'est la difficulté de saisir ce qu'est une analyse scientifique par rapport à la réalité que je décris. Bon, article 3. La grâce est-elle la même chose que la vertu ? Vous voyez, là, on va pousser, hein, on pousse. Cet aliquide, on va préciser. Exis. On va préciser que c'est quelque chose qui est exis. Ça, le scandale va encore aller plus loin. Vous voyez, cette forme accidentelle, elle est exis. Ah, ça, c'est le scandale. Cette forme accidentelle, elle est donc un avoir. Elle est donc une vertu. Vous ramenez la grâce à une vertu. Vous voyez jusqu'où votre humanisme, n'est-ce pas ? Vous mettez un droit sur Dieu. Vous allez posséder Dieu par la grâce. C'est exis. Et c'est très vrai que certains chrétiens vivent leur vie chrétienne en banquier. Ils vivent leur vie chrétienne, ils exploitent le capital de grâce qu'ils ont eu. Alors là, ils vivent en banquier. Ils exploitent cet avoir. Et ils ne sont pas des mendiants. Alors, il faut comprendre que la grâce, c'est un avoir pour faire de moi un mendiant. C'est ça qu'il faut saisir. La grâce, c'est un avoir, c'est vrai, c'est une vertu. Je peux l'exercer comme je veux. Et je dois l'exercer divinement, en mendiant. Plus je possède, plus je suis mendiant. Ça existe de temps en temps, même chez les banquiers. Ça, c'est extraordinaire. Mais alors ici, il s'agit de l'être par rapport à la grâce. Si la grâce est une vertu, il paraît évident qu'elle sera avant tout une des trois vertus théologales. Or, la grâce n'est ni la foi ni l'espérance, puisque ces deux vertus peuvent exister sans la grâce sanctifiante. Elle n'est pas non plus la charité, puisque d'après saint Augustin, dans son ouvrage sur la prédestination, la grâce est antérieure à la charité, donc la grâce n'est pas une vertu. Oui, elle n'est pas vertu dans le sens opératif, elle est exis. Donc elle n'est pas vertu dans le sens d'une vertu opérative. Mais elle est exis, elle est un habitus. Oui. Certains ont mis en thèse que la grâce et vertu sont identiques quant à leur essence et n'admettent entre elles qu'une différence de raison. On dirait grâce en ce sens, qu'elle rend l'homme agréable à Dieu et qu'elle est accordée parfaitement. Et vertu en ce sens qu'elle est une perfection qui fait que l'action est bonne. Telle paraît être l'opinion du maître des sentences. Ouais, c'est très intéressant comme critique, hein, alors que dans les commentaires des sentences, saint Thomas suivait le maître des sentences. Saint Thomas qui précise. Mais si on considère la notion exacte de la vertu, cette conception ne peut se maintenir. Aristote dit en effet dans sa physique. Donc c'est au nom d'Aristote que saint Thomas critique le maître des sentences. Vous voyez, le maître des sentences est néo-platonicien. Et au nom d'Aristote, il va préciser qu'il dit des choses qui ne sont pas tout à fait justes. La vertu est une certaine disposition de ce qui est parfait. Et j'appelle parfait ce qui est disposé selon la nature. La vertu est une certaine disposition de ce qui est parfait. D'où il ressort que toutes les fois qu'on parle de vertu, c'est en se référant à une nature préexistante. Et il y a vertu quand tout est disposé comme il convient à cette nature. Or, les vertus acquises par les actes humains, dont nous avons parlé précédemment, sont des dispositions qui mettent l'homme dans l'état voulu par sa nature d'homme. Mais les vertus infuses communiquent à cet homme des dispositions supérieures et l'orientent vers une fin plus haute. Il faut donc que ces dispositions et cette fin soit en rapport avec une nature également plus élevée. Cette nature plus élevée, c'est la nature divine participée, d'après la deuxième épître de saint Pierre. Il nous a mis en possession des grandes, des plus grandes et des plus précieuses promesses, afin de nous rendre ainsi participants à la nature divine. Ça, c'est le fameux texte qu'il ne faut jamais oublier, n'est-ce pas ? Parce que c'est là où, dans la révélation elle-même, évidemment, comprenons bien, hein, le mot participation quand il est dans saint Pierre n'est pas tout à fait la même signification que participation quand il est dans la langue de saint Thomas. Il y a la chute du Niagara entre les deux. Il y a le point de vue de la participation dans le langage divin, c'est participation au sens le plus commun. Et dans le langage de saint Thomas, c'est participation dans un sens précis. Mais comprenons bien, le langage précis est ordonné au langage révélé, et non pas l'inverse, n'est-ce pas ? Il nous a mis en possession des plus grandes et des plus précieuses promesses, afin de nous rendre ainsi participants de la nature divine. Et c'est parce que nous recevons cette nature qu'on dit que nous naissons de nouveau pour devenir fils de Dieu. Vous voyez que la naissance apparaît ici. Elle n'apparaissait pas dans l'article précédent. Donc, de même que la lumière naturelle de la raison est distincte des vertus acquises, qui pourtant se réfèrent à cette même lumière naturelle, de même, cette lumière de la grâce, qui est une participation à la nature divine, est distincte des vertus infuses qui dérivent de cette lumière et qui lui sont ordonnées. C'est pourquoi l'apôtre dit dans l'épître aux Éphésiens, « Vous étiez ténèbres autrefois, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des fils de lumière. » De même en effet que les vertus acquises perfectionnent l'homme pour qu'il marche selon la lumière naturelle de la raison, de même les vertus infuses le perfectionnent pour lui permettre de marcher d'après la lumière de la grâce. Alors vous voyez bien, c'est à clé. Il était bien un avoir exis une lumière. Et de cette lumière jaillit les trois vertus théologales. Donc cette lumière est source. Cet exis est source de ces vertus.
Toutes les activités de l'Église catholique romaine il explique étape par étape. Trois autonomies, et puis l'église patriotique, et puis association patriotique. Finalement, il dit que l'église sera seulement une organisation, une structure, avec les membres qui sont liés au régime, au gouvernement. Il n'y a plus la continuité de prière, de vie, de sacrement. En ce cas-là, l'influence de Rome est tout fini. Sous ce perspective, je crois ils ont des évêques, des prêtres, ils préparent séminaristes. S'ils ne l'ouvrent pas, signifie pour l'Église, ils ne vont pas que l'Église continue. Peut-être pour inviter ces prêtres et ouvrir le séminaire. Comment, avec quelle méthode, quel livre il va former ces séminaristes, c'est la question essentielle. Est-ce que ces séminaristes, plus tard, doivent se marier, peut-être tout cela, on ne sait pas. C'est le commencement. On a voulu ouvrir un à Shanghai, un autre à Pékin. À Pékin, il n'y a que six aspirants, on dit, peut-être. On n'a pas ouvert le séminaire. À Shanghai, c'était ouvert. Là plus loin.
Et y a-t-il des séminaires secrets pour les prêtres, les prêtres fidèles?
Non, il n'y a pas de séminaire secret. Il y a des séminaristes secrets. Je dis ça, on a rié. Les jésuites sont toujours très pratiques. Hein. Plus ou moins, ce n'est pas l'ordre, une pratique. Enfin. Il y a encore quelques prêtres jésuites en continent. Ils tâchent. Chaque prêtre avoir au moins un ou deux jeunes s'il exprime le désir, tâche de vivre ensemble avec ce prêtre. Comme ça, on forme tout doucement, un à un. Mais pour avoir vraiment un groupe, c'est très difficile. Il y a des diocèses où il y a quelques-uns, ce sont les anciens séminaristes qui attendaient encore d'être reçu ou d'être ordonné prêtre, mais pas beaucoup, maximum, il y a deux ou trois ensemble. Il y a des religieuses qui vont encore ensemble, des religieuses sans habit religieux, ils travaillent ensemble, c'est mutuellement, et encore, oui. Il y a des religieuses qui sont mises dans le temple avec les bonzesses ensemble. Et oui, la derrière vous, c'est ça.
Est-ce que vous savez si la tactique du régime n'est pas la même de ce Vietnam actuellement, d'essayer de constituer une église séparée de l'église romaine?
Oui, c'est ça. Ce que vous avez dit, ce que je dis, les évêques qui sont consacrés, ils doivent rurer, se séparer de Rome. L'église, l'association patriotique, c'est l'assemblée générale. Sous cela, il y a la conférence, l'église. C'est séparé de Rome. Ce que je dis, on évite d'employer officiellement ce mot, c'est en espérant, dans l'intérieur de tous, on est unis encore. C'est notre bonne volonté. Oui.
Mais comment se fait-il que le régime communiste accepte ou permette une église d'abord? Parce que, est-ce que c'est dans l'esprit communiste d'avoir une église, non?
Parce qu'il ne sait pas détruire entièrement. Je vous dis un exemple. Il y a 3 ans, dans la province de Shanxi, pendant 30 ans, jamais on a eu de messe, de célébration, de tout, rien du tout. Le 15 août, parce que les communistes ont décidé d'ouvrir l'église, laisser un peu de liberté, une province à l'autre, dans une province un peu le nord, un peu le sud, ils tâtonnent pour essayer quelles réactions. À Shanxi, on a dit, cette année, vous pouvez avoir la messe dans la cathédrale de Shanxi, de Gansu, Assomption. C'était deux prêtres de l'église patriotique avec un prêtre fidèle. Hein. Ce jour-là, ça tombe bien, il y a un prêtre chinois qui travaille en Allemagne. Il est entré chez lui, dans sa famille. Il a su que ce jour, il aura la messe. Et il a quitté son village en vélo avec sa sœur pour aller dans l'église. Le vélo n'est pas tellement... Enfin, il a eu un peu de difficulté, retardé quelques minutes. Quand il est arrivé à la cathédrale, il ne pouvait plus rentrer. Tout plein. Il dit que c'est à peu près les 4 heures du matin. C'est toujours la messe se finit avant le orol, hein, avant le travail. Il n'a pas pu rentrer. Il dit que encore les dames à côté, les messieurs à côté, se mis à genoux, l'un contre l'autre, comme ça. Il a dû attendre jusqu'au moment de communion. En communion, les gens avancent pour la communion. Il a suivi. Il a pu arriver à l'hôtel. Il a vu, c'est le recteur de son séminaire qui était à l'hôtel, assis à la messe. Mais les communistes sont surpris. Ils disent que pendant si longtemps, on a cru, on a demandé que les catholiques signaient de refuser leur religion, ou bien ils ont souffert terriblement. Maintenant, comment sont-ils de nouveau sortis de la terre, comme le champignon? Oui. C'est vraiment surpris. Oui. Il ne peut pas tuer tous, même seulement 3 millions de catholiques. C'est pourquoi ils veulent détruire tout doucement avec leur méthode. En fait. Je ne crois pas qu'il arrivera à détruire. Je crois que ce sera le contraire. Oui. Vous avez demandé? Non.
Quelles sont les possibilités
Quelle...
Est-ce que les prêtres qui sont à Taïwan,
oui,
peuvent aller en Chine communiste autrement pour de visiter, rendre visite à leur famille, soit comme professeur dans les universités ou... Est-ce qu'il y a une ouverture qui était possible, parce qu'il avait été dit il y a quelque temps que les jésuites avaient une possibilité d'envoyer des professeurs comme professeurs, mais ne pouvant avoir aucune activité d'ordre religieux?
Oui. Alors, je te demande deux questions. Tout d'abord, officiellement, les prêtres de Taïwan ne peuvent pas retourner, officiellement. Mais concrètement, il y a plusieurs qui sont allés à Hong Kong. De Hong Kong, ils peuvent retourner. Notre gouvernement le sait, mais il tolère. Il sait que les catholiques, les prêtres, certainement, il n'y a pas de danger de faire quelque chose contre... notre gouvernement à Taïwan, comment dirais-je, il n'y a que, comment dirais-je, c'est bon pour connaître la situation. Il n'y a pas de mal, hein, il tolère, officiellement, permet pas. Ceux qui sont retournés, les communistes laissent entrer, c'est pour la propagande, pour dire que Taïwan, c'est une province, notre province, nous laissons entrer. Et nous, à Taïwan, nous ne laissons pas que les communistes venir. Pourquoi? Si on laisse, ils viendront à 1 million, 3 millions, 10 millions. Tout Taïwan sera fini tout de suite. C'est le point. On ne laisse pas les gens de la Chine continentale venir à Taïwan. Sauf ceux qui sont contre le communisme. Hein. Mais il y a quelques individus qui ont pu rentrer en Chine pour la visite. Notre gouvernement de Taïwan tolère, il n'a fait pas de difficulté. Selon pour la visite, on n'a rien à faire. Comme vous dites, les jésuites, on a eu un prêtre qui était là-bas pour enseigner mathématiques. Au bout de 2 ans, il a quitté parce que c'est insupportable. On ne peut avoir aucune activité, c'est toujours surveillé, toujours surveillé. C'est impossible, surtout les prêtres, d'aller là-bas comme professeur sans manifester son état de prêtre. Impossible. Ils sont vraiment intelligents. Parce que pour avoir le visa, ils ont des détails. Si quelqu'un de vous allez en Chine, il faut avoir le visa. Si vous allez à l'ambassade de Chine communiste, il saura tout. C'est très difficile pour être comme professeur. Il y a des gens encore qui travaillent dans l'ambassade comme secrétaire. Mais il sait que vous êtes prêtre, vous êtes secrétaire. Vous ne pouvez pas exercer aucune autre activité.
Est-ce qu'il y a d'autres groupes religieux en Chine, d'une part parmi les chrétiens, d'autre part parmi les...
Protestants. Beaucoup de protestants. Les protestants, maintenant, sont plus ou moins à la tête. Et puis, c'est eux, toujours, donnent des conseils au gouvernement communiste. Parce qu'ils désirent que notre Église soit comme eux, nationale, indépendante, autonome, rien de relation avec les autres, avec Rome. C'est ça, c'est là. Oui. Oui. Très très peu. On sait qu'il est en prison où on ne sait pas. Même le cardinal Ishikaray, quand il était à Shanghai, il demande de nouvelles, il veut visiter. Impossible. Il dit que c'est un réactionnaire criminel. On ne laisse pas le voir. On dit peut-être que c'est lui qui est le cardinal in pectore. Il a un cardinal in pectore, hein. On devine, on ne sait pas vraiment. Oui.
Quel est l'état des autres religions non chrétiennes?
Je crois les seulement notre religion catholique sont plus unies. Même sans l'évêque, sans prêtre, sont encore unis. Ils ont une structure intérieure. Hein. Les autres églises, par exemple, les bouddhistes, les musulmans, eux, ils n'ont pas de difficultés comme nous avons. Le communiste n'a pas besoin de penser beaucoup pour traiter les bouddhistes ou les musulmans, les autres.